Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Quand un militaire part en mission, toute la famille est impactée. Comment le couple se prépare-t-il au départ? Comment hommes et femmes vivent-ils pendant la mission? Quel impact le retour a-t-il sur la vie conjugale? Famille de militaires, le défi de la mission, c'est l'ouvrage de Mathilde Thibergien, épouse de militaire, psychologue clinicienne et psychothérapeute de couple et famille. Mathilde Thibergien est en ligne avec nous depuis Bordeaux. Bonjour madame.
Bonjour madame.
Dans le studio de Radio Présence, trois autres femmes de militaires. Catel Deprec, bonjour.
Bonjour.
Audrey Bella, bonjour.
Bonjour.
Et Aude Gardet,
bonjour. Bonjour.
Quatre femmes pour témoigner de l'impact de la mission sur leur équilibre conjugal, notant cependant qu'aujourd'hui, ce sont aussi des femmes qui partent en mission et le conjoint reste alors avec ses enfants. Donc la question n'est pas forcément unilatérale. Mathilde Thibergien, vous intervenez souvent auprès d'associations de familles de militaires. En tant que thérapeute, quel constat général faites-vous à propos de l'impact de la mission sur les couples ?
Oui, alors peut-être un constat, je pense qu'on fait tous, c'est à quel point une mission, ça vient mettre au défi le couple, mettre au défi ou le couple de rester en lien, de rester en connexion, de ne pas être dans des voies, chacun un petit peu dans sa bulle et pouvoir aussi se retrouver, recréer, refaire couple, comme j'aime à dire au retour. Donc c'est vraiment l'enjeu de continuer à être en couple en fait malgré cette expérience de séparation intense.
Vos maris respectifs sont partis en mission de nombreuses fois pour citer quelques destinations, on va dire, même si ce ne sont pas des destinations de rêve comme on pourrait imaginer pour des vacances. L'Afghanistan, le Tchad, le Mali, le Liban et pour des durées de 4 à 6 mois. Pour le militaire, la perception de la mission n'est pas la même que pour son conjoint. Comment la partagez-vous? Alors vous, peut-être mesdames qui êtes déjà en studio, comment vous partagez sur la mission elle-même? Ou comment vous la percevez, cette mission? Peut-être en tant qu'épouse.
Hein. Enfin, moi personnellement, on fait comme si de rien n'était. Je ne pose pas de questions. Alors, c'était au début, parce que moi, j'ai 52 ans, donc j'ai un peu d'expérience. Au début, je ne posais absolument pas de questions et j'avais une totale confiance dans la mission. Sauf qu'il y a eu l'Afghanistan. Avec tous les morts là dans la vallée d'Ouzbine. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, ils n'allaient pas là-bas au Club Med et qu'il y avait vraiment du danger. Donc, quand ils partent en mission, on ne parle pas forcément. On essaye d'occulter le...
C'est une façon de se protéger.
Oui, on se protège, oui. Mm-hmm. Mm.
Vous, Audrey et Aude, vous avez la même perception? Est-ce que c'est... Vous préférez ne pas en parler ou au contraire, vous avez envie de tout savoir?
Non, moi, je préfère savoir à la fin. Quand il revient, c'est à ce moment-là qu'il me raconte ce qui s'est passé. Mais quand il est là-bas, Avant de partir, je ne veux pas trop de détails non plus.
D'accord. Donc, la destination, la durée.
Voilà.
Et ça suffit.
Oui, Audrey alors, aussi. En ce qui me concerne, la destination, la durée, on ne l'a pas toujours. Moi, j'ai pas toujours eu la durée. Je essayais pas. Et sur la dernière mission, la durée, on l'a su au bout de deux mois et demi, je pense.
Et une fois que votre mari était parti?
Oui, bien sûr.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est variable. En plus, c'est assez flottant.
Donc, c'est difficile de se préparer si on ne sait pas pour combien de
Exactement.
Temps. Ou est-ce que ça change quelque chose, finalement, quand le mari part 2 mois ou 4 mois ou 6 mois?
Ça permet de visualiser sur le calendrier, de se fixer des points d'horizon. Et c'est assez... démoralisant quand on voit qu'ils sont constamment repoussés. Oui. Ça joue énormément sur le moral.
Ouais, alors moi, j'ai la chance d'avoir toujours connu les missions. Donc, la mission de 4 mois, c'est gérable. On regarde toujours la moitié, 2 mois. Hein. Les 6 mois, c'est plus compliqué parce que nous, on en a eu plusieurs. Et du coup, la moitié, les 3 mois, on se dit, oh là là, encore 3 mois à faire. C'est ça. Mais on a toujours su à peu près quand ouais. ils partaient. Après, c'est vrai que quand on sait la date et que c'est repoussé d'un jour, 2 jours, 3 jours,
ouais,
ça
c'est
devient
bizarre, en fait.
Épouvantable. Même 2 jours, pourtant, quand il est parti 6 mois, on doit
oui,
se dire,
bon,
allez, on a fait le plus gros. Mais 2 jours, 3 jours, c'est hyper éprouvant.
Ouais. C'est éprouvant. Mathilde Thibergien, vous êtes aussi femme de militaire et vous avez certainement discuté avec des militaires qui étaient partis sur le terrain. Pour eux, qu'est-ce que c'est cette mission? Quelle perception ils en ont?
Oui, alors là, je vais plutôt vous parler de ce que j'entends au cabinet, puisque je reçois également des militaires eux-mêmes. Bah, c'est un peu variable, évidemment, en fonction des militaires, mais je crois que pour le militaire, c'est un peu l'accomplissement, en fait, quand même, de ce pourquoi il s'est engagé. C'est vraiment aussi mettre en œuvre, quand même, ce pourquoi il s'est préparé pendant longtemps. Donc, je trouve que pour les militaires, il y a quand même quelque chose de... J'accomplis quelque chose qui est important pour moi, qui a du sens. Ça n'empêche pas la souffrance. Les militaires, souvent, ils sont pudiques. Ils vont mettre un petit peu à distance leurs émotions pour pouvoir s'arracher à leur famille. Ça ne veut pas dire qu'ils ne souffrent pas de partir en mission. Pour eux aussi, c'est très difficile. Et peut-être qu'il y a, j'ai envie de dire, un peu plus d'excitation à partir en mission, un peu plus de motivation, encore une fois, parce que c'est la réalisation vraiment de leur travail.
Oui, c'est un aboutissement. Est-ce qu'on peut dire pour autant que la mission, elle est quasiment intouchable et le conjoint n'a plus qu'à accepter, en fait?
Alors, je crois que ça, c'est important. C'est quelque chose qu'on travaille au cabinet ensemble, cette idée de... non, il doit quand même avoir ce questionnement de est-ce que mon conjoint peut la vivre, est-ce que ma famille peut la vivre. Voilà, j'ai eu au cabinet des personnes qui ont dû dire bah écoutez, là je peux pas partir parce que je suis inquiète pour l'état psychique de mon conjoint ou de mon enfant. C'est rare, mais je pense qu'il faut pouvoir quand même se poser la question.
Justement, dans votre ouvrage, vous insistez beaucoup sur la façon de partager en couple sur la mission elle-même avant le départ. Est-ce que, Katel, vous nous disiez que vous en parliez le moins possible, Aude aussi et Audrey, aussi. Voilà, très peu de détails. Mais pourtant, il y a quand même des choses à organiser pendant l'absence d'un militaire, non? Vous ne parlez pas de tout ça?
Alors ça, c'est... C'est nous en tant qu'épouse, enfin moi personnellement, c'est moi qui gère enfin les enfants. Mon mari, il n'a pas à s'occuper. Mon mari, il a sa mission et puis par derrière, on gérera les aléas et ce qui peut se passer. Donc, nous, c'est comme ça qu'on a...
C'est comme ça que vous fonctionnez. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être une fenêtre pour dire... Bah, voilà, je m'inquiète parce que tu pars dans un pays dangereux ou parce que tel enfant va avoir des difficultés. Est-ce que c'est quand même nécessaire de se partager ce genre d'inquiétude ou est-ce que vous croyez que ça va faire trop peser sur les épaules de votre mari?
Non, moi je lui ai dit. Je lui ai dit tout ce que j'ai sur le cœur et après on trouve des solutions avant qu'il parte.
Par exemple
Un enfant qui est un peu difficile, voilà, il va prendre plus de temps avec lui, des moments de qualité, essayer de le responsabiliser pour que cette mission se passe bien. Si moi je me dis intérieurement je vais pas y arriver au niveau organisation, souvent j'ai pris une aide à domicile qui venait quasiment tous les soirs pour m'aider. Et moi ça me permettait d'aller faire du sport, d'aller faire des courses pour prendre un peu l'air. J'ai toujours eu des enfants à la maison, donc c'était difficile d'avoir un peu de temps pour moi. L'administratif, pour moi, c'est une montagne, donc voilà, tout doit être fait avant qu'ils partent, notamment les impôts.
La sacro-sainte déclaration d'impôts.
Voilà, si on a un jardin, voilà, c'est lui qui trouvera le jardinier et après, on mettra les choses en place. Tout ça avant qu'ils partent.
Ouais, donc tout est calé, le plus possible en tout cas, c'est bordé avant le départ. Audrey?
Oui, alors aussi dans la mesure du possible, ça dépend aussi du délai dont on dispose avant le départ en mission.
Oui, parfois c'est un peu la course.
Oui, parfois en 10 jours, parfois...
Oui, donc là c'est compliqué de tout prévoir.
Là, pour tout ce qui est prévoir des moments à deux de qualité, non, ça va vraiment être tailler la haie, réparer la fuite d'eau... Allez, au plus pressé.
Et pourtant, Mathilde Thibergien, ces moments de qualité, ces moments à deux avant de partir, c'est quand même nécessaire, non?
Oui, bah, dans l'idéal,
dans l'idéal.
C'est vrai que vous habitez, elle parle très bien du principe de réalité que les familles unitaires connaissent bien, c'est-à-dire qu'il y a un idéal et puis il y a voilà, ce que les conditions militaires imposent, et parfois il y a des départs comme ça très très rapides qui sont pas prévus, mais c'est vrai que c'est dans la mesure du possible, c'est hyper important de faire un peu le plein de moments de qualité à deux, le plein de moments de qualité en famille, tout simplement en fait pour prendre des forces avec, pour affronter cette séparation. Mais je trouve qu'aussi la préparation matérielle que vos invités évoquent très bien, elle est extrêmement importante. Et en fait, l'idée, c'est de se dire bah, de quoi nous, on a besoin. Et je trouve qu'on l'entend très bien avec vos invités. Chaque couple a des besoins différents, chaque famille a des besoins différents. Il y a des familles qui vont avoir des besoins très pratiques et c'est indispensable de les mettre en œuvre. D'autres, ça va être au contraire justement de s'évader et d'avoir vraiment des moments de qualité ensemble. Ça dépend vraiment des couples et des familles. Et c'est peut-être la question à se poser, c'est de quoi on a besoin pour vivre le mieux possible ce temps de mission et ce temps de séparation. Si tu es coupé la haie, bah c'est hyper important.
Se poser la question et aussi oser le dire, voilà, quels sont mes besoins et voilà ce dont j'aurais besoin. Et peut-être aussi pendant que, juste avant que le militaire, le conjoint parte en mission, est-ce que c'est pas aussi le moment de se dire, bah, de quoi auras-tu besoin pendant que je serai absent? Est-ce que ce sera que je t'envoie une lettre tous les mois? Est-ce que ce sera un petit colis avec quoi dedans pour Noël? Est-ce que ça, c'est des choses aussi dont vous discutez?
Oui.
Oui.
J'ai déjà envoyé des bouteilles de vin, des bonbons, du saucisson, mais voilà, il me dit oublie les bonbons parce que la boîte d'Haribo à 70 degrés, ça fond et ça fait
Et le vin voyage bien en revanche.
Et le vin, non, pas trop non plus. Donc voilà, il me dit, il me donne quelques pistes, mais.
D'accord. Oui, des pistes aussi pour rester en lien.
Oui, alors ça, heureusement, on a des moyens maintenant. Alors moi, à l'époque, j'aime pas dire à l'époque, mais on avait Skype qui passait. Donc, il y avait le téléphone quand même un petit peu. Après, en fonction des missions, c'est vrai que ça passait pas tout le temps. Donc ça, c'est un peu angoissant qu'on n'a pas des nouvelles et qu'on te dit, enfin, on nous dit, ben voilà, je t'appellerai dans 3 jours et puis que le coup de téléphone n'arrive pas.
Donc, il vaut mieux pas faire de moments... trop de promesses, en fait.
Oui, mais d'un autre côté, Skype, ben, on est obligé, surtout connecté. Pour les enfants. Ouais. Ça, c'était l'horreur parce que c'était ils l'attendaient tellement qu'il fallait que ce soit à telle heure, en général, pendant les repas. Donc, la grosse galère, un peu horrible, enfin, pas très agréable. Pour nous, maman, parce que ben, on a la gestion, les repas... Enfin, prendre les bains, etc. Et donc, en général, ben, lui, c'est l'heure du dîner qui l'a rangé. Donc voilà, mais ça, c'est des moments hyper importants.
Donc ça, c'est et à caler. Il faut en parler avant de partir et se dire, on va s'écrire.
Voilà. Et les lettres, parce que les lettres, ça reste. Hein. Et ça, on les relit et on les a gardées. D'ailleurs, on les a toujours.
Oui, c'est ça.
On les garde.
Ouais.
Et pourtant, on n'est pas à une époque où on s'écrit encore, hein.
Non, c'est juste, mais je crois qu'il faut vraiment savoir déterminer les modes de communication qui nous correspondent et qui nous font du bien.
Ah oui.
En ce qui me concerne, je me suis aperçue, par exemple, que la visio ne nous faisait pas du bien et ne nous correspondait pas. Parce que on se voit à l'instant où a lieu l'appel. C'est pas forcément l'instant où on est le plus à son avantage, et pour lui et pour nous. Donc, on voit l'autre un peu fatigué, on voit sa femme avec des cernes. Nous, ça nous a jamais beaucoup réussi.
À chacun de trouver le mode de communication qui lui convient. Mathilde Hibergin, est-ce que il faut parler avant le départ des questions qui fâchent, du risque d'un accident? Ben voilà, mon père ne va pas bien, il risque peut-être de mourir pendant la mission, ou toi, tu risques peut-être d'avoir un accident. Est-ce que ça, c'est des sujets qu'il faut vraiment mettre sur la table, ou au contraire, pour se protéger, ne pas en discuter?
Alors, mon expérience de psychologue vous dirait qu'il vaut mieux pouvoir en discuter avant, parce que quand ça se passe et que du coup on improvise, entre guillemets, Sur le moment, ça peut être très compliqué. Et puis, on peut en voir beaucoup aussi à l'autre de la façon dont il a géré la situation à l'autre bout du fil ou à l'autre bout du monde. Donc, moi, je vous dirais que c'est au contraire très important de pouvoir s'en parler avant. Après, parfois, voilà, il y a ce mécanisme de défense qu'on connaît bien qui va être un peu, par exemple, le déni ou au contraire, mettre très à distance tout ça. Comme son nom l'indique, c'est défensif, donc c'est pour but de protéger la personne. Ce qui est compliqué, c'est que parfois ce qui nous protège sur l'instant peut en fait nous abîmer sur du long terme. Donc moi j'invite plutôt les couples, les familles que je reçois au cabinet justement à oser verbaliser, parler de ça, parler de ce qui pourrait se passer, ce qui nous semble compliqué, pour là aussi en fait essayer de s'ajuster un peu et de se dire voilà quel code on va avoir pour se dire que là vraiment j'aurais besoin de ça ou ça va être important que tu réagisses, etc. Enfin voilà, se caler un petit peu le plus possible pour encore une fois s'ajuster malgré la distance, malgré les kilomètres.
Mmh. Toujours dans ce temps de préparation avant la mission, est-ce que l'une ou l'autre vous avez un petit rituel spirituel avant le départ pour essayer d'avoir un temps de prière et de confier le militaire qui part pendant sa mission, ou est-ce que c'est quelque chose qui est finalement assez implicite et naturel ?
Pour nous, c'est plutôt implicite et naturel.
Oui. Oui. Pour chacune.
Oui. Nous, c'est c'est prière de tous en famille. En fait, c'est la prière familiale qui vraiment prend un sens encore plus particulier quand ils partent en mission parce que on sait qu'il y a du danger et pour les enfants, c'est c'est tout. Enfin voilà, la prière, c'était toujours un peu quand ils étaient jeunes, olé olé.
Un peu la foi.
Mais là, ça a vraiment, vraiment, vraiment un sens. La prière du soir, on prie pour papa et pour que la mission se passe bien.
Oui, ça c'est important. Une dernière question avant ce départ en mission, Mathilde Thibergien. Parfois, il peut y avoir une angoisse de séparation qui ressurgit. Comment faire face ?
Ouais, ça c'est toujours compliqué parce que c'est vrai que les séparations dans notre présent, elles vont vraiment être teintées par notre histoire autour de des séparations. Donc quand on a déjà une histoire compliquée autour de ça ou des blessures ou des choses qui pèsent, ça peut être extrêmement violent, extrêmement difficile. Et ça, je trouve que quand on sent qu'on n'est plus trop en mesure de bien vivre, je trouve que c'est hyper important d'oser pousser un peu la porte d'un professionnel pour être soutenu, pour être accompagné dans cette angoisse-là.
Pour
nos enfants. Ouais. De ne surtout pas rester seul et de ne pas trop dire je vais compter sur mes propres forces, je vais le faire, bien sûr, mais à quel prix ? Et puis, en fait, c'est dommage parce qu'on peut vraiment être soutenu, être accompagné de manière efficace là-dedans.
Mmh. Allez, on fait une toute petite respiration et on se retrouve juste après.
Présence.
Vivante Église, Isabelle Duché.
Comment garder le lien avec le militaire parti en mission ? Comment assumer seul le quotidien dans les joies et les difficultés ? Ce sont ces questions que nous nous posons aujourd'hui autour de ce livre « Famille de militaires, le défi de la mission ». Avec Mathilde Thibergien, son auteur, et Audrey, Catel et Aude, toutes les quatre femmes de militaires. Je vous cite Mathilde Thibergien dans votre ouvrage « La porte s'est refermée, le bus, l'avion, le bateau sont venus emporter le militaire tant aimé, l'autre vit à des milliers de kilomètres, c'est terriblement douloureux, mais étrangement soulageant ». Qu'est-ce que vous avez voulu dire par ce sentiment ambivalent ?
Oui, là, en reprenant les mots d'une patiente au cabinet, les mots qu'elle m'avait prêtés, je parlais de ce sentiment de enfin le compte à rebours un peu insupportable avant le départ qui s'arrête. C'est-à-dire que ça y est, il est parti, maintenant il va falloir faire face. Mais parfois, là, c'est ce qui peut être vraiment très éprouvant à vivre, c'est les derniers jours, les dernières heures, les dernières minutes. Avec ce moment terrible où il va falloir vraiment se séparer, se regarder, se dire au revoir. Et donc c'est pour ça que je reprenais ces mots de soulagement pour dire que maintenant c'est le défi qui commence. C'est un peu on est un peu dans l'épreuve brute, mais ça y est, enfin c'est là. Et ça veut dire aussi que c'est le compte à rebours aussi, du retour aussi qui peut s'enclencher.
Katel, je vous voyais au Pinet du Chef, vous êtes...
Ah oui, complètement. Les jours qui précèdent le départ sont assez compliqués. Je sais que mon mari, il préparait au dernier moment son sac pour qu'on ne voit pas et que ça ne nous rappelle pas le départ. Mais voilà, il y a la veille du départ qui n'est pas drôle du tout. Et après, le jour du départ, le lendemain, et après, allez, on y va. Et puis après, ce qu'il faut, c'est trouver son rythme et faire comme si la vie reprenait son cours et que ce soit le plus normal possible, entre guillemets, pour nous et pour les enfants.
Ouais. Et un soulagement aussi, parce que maintenant que tout est prêt, tout est organisé et voilà, il faut que la mission démarre, il faut que le militaire puisse partir sur le terrain et que finalement le conjoint qui reste soit entre guillemets seul maître à bord et que voilà, on commence à faire le décompte des jours avant son retour.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
C'est vraiment ça. Et puis les jours précédant le départ, c'est un sentiment. À la fois, on est heureux de les avoir avec nous. On voit bien quand on a des sollicitations amicales et qu'on voit le compte à rebours, on se dit non, on va plutôt rester en famille. Ouais. Et en même temps, ce n'est pas des moments très agréables parce que notre mari n'est déjà plus là dans sa tête. Il est présent physiquement, mais son cerveau, il est déjà dans la mission. Donc on se dit, vite qu'il soit à sa mission, que nous, on puisse aussi avancer de notre côté, chacun au mieux, parce que présent physiquement au même endroit, on n'a plus rien à faire. Là. Les préoccupations sont autres des deux côtés.
Ouais. Exactement. Ouais, c'est ça. Pendant la mission, la solitude s'invite immanquablement dans le quotidien. Il y a des femmes qui accouchent seules, il y a des époux qui passent Noël loin de leur famille. Comment apprivoisez-vous cette solitude ?
Alors moi, je sais que j'ai eu mon dernier, là, j'ai accouché toute seule. Heureusement que j'avais ma maman qui est venue. C'est pas un moment facile, je vais pas vous le cacher. Surtout qu'en plus, quand il est loin, il faut réussir à le joindre pour lui annoncer c'est un garçon ou une fille. et puis, partager, une naissance, on aime bien le partager à deux. Et là, on le partage chacun de notre côté. Donc voilà, après le côté positif, c'est quand il est revenu un mois et demi après la naissance, là il ne voulait plus lâcher le bébé, c'est lui qui se levait les nuits, et au moins pendant 15 jours,
vous
c'est
avez
lui
dormi.
Qui a géré, et je me suis reposée.
Aude, sur cette question
aussi,
de la solitude.
Moi aussi j'ai vécu aussi un accouchement toute seule, et j'ai trouvé ça très difficile. Après je suis partie chez mes parents pour qu'ils m'aident. Et ça ne remplace pas un mari, mais ça aide quand même, plutôt que d'être vraiment toute seule. Et puis, au retour, pareil, il reprend sa place de papa et doublement. Ouais. Donc, ça...
Est-ce que Mathilde Thibergien, dans les personnes que vous accompagnez, vous avez aussi ce sentiment de solitude qui ressort et ça peut être aussi à propos des personnes qui sont en mission?
Oui, bien sûr. On parle souvent au cabinet du lourd manteau de la solitude là, qu'il faut endosser, ce manteau qui pèse des plombes là, à partir du moment où le mari claque la porte ou la femme. Ça y est, il y a ce lourd manteau qui tombe sur les épaules. Et parfois, le militaire parle aussi du fait qu'il est toujours entouré, il n'est jamais seul en mission et pourtant il peut se sentir très seul. Je pense à un militaire qui me disait, quand j'ai raccroché et que j'ai su que mon petit garçon était né, je me suis sentie infiniment seule et pourtant j'étais entourée. Mais en fait, j'étais seule dans mon cœur, j'étais seule avec ma peine de ne pas être auprès de ma famille. Donc oui, c'est évidemment que la solitude, elle est peut-être inhérente à cette vie et elle est très marquée pendant la mission. Après, je trouve là aussi que vos invités, elles parlent très bien de l'importance de s'entourer, que ce soit de famille ou d'amis, et qu'en fait, une mission, ça ne se traverse pas seul. Et j'ai envie de dire presque que ça ne se gagne pas, que ça ne se relève pas seul. Ça ne veut pas dire que les autres vont porter à votre place la mission, mais qu'il est doux parfois d'avoir ben voilà, une soirée avec des amis où on peut rire, ou ça peut être des amis qui lisent des livres aux enfants et pas soi, qu'il est doux parfois de se faire un peu bichonner par sa famille, c'est extrêmement important, bien sûr.
Mmh.
Reprendre un peu des forces. Et puis, pardon, je voudrais juste dire aussi que c'est très important, je pense, comme exemple pour les enfants, qu'ils comprennent que, en fait, on ne peut pas toujours avoir les forces, on n'a pas toutes les forces en nous, et que ce n'est pas grave, on peut s'appuyer sur l'extérieur, et que l'extérieur, ben, voilà, on peut aller chercher des forces, du dynamisme dans nos amis, dans nos familles, dans les professionnels aussi qui nous entourent, on peut leur faire confiance pour ça.
Mmh. Est-ce qu'il faut forcément, d'après ce que vous dites, Mathilde Hébergin, accepter que quand on est à la maison, qu'on reste et que son conjoint est parti en mission, accepter qu'on n'arrive pas à tout faire super bien et reconnaître ses limites?
Oui, alors là, je pense que vos invités en diront quelque chose, mais ça, je crois que c'est un peu la réalité de la mission, c'est que très vite, en fait, on tape dans nos limites, dans nos faiblesses, dans nos fragilités, et que si on cherche à être une superwoman ou un superman, très vite, on va être arrêté, parce que même physiquement, la mission, elle a son poids physique, elle est épuisante. Donc, je pense que c'est toujours plus porteur de se dire, ok, je peux pas tout faire. Qu'est-ce que je vais prioriser, et aussi comment je vais prendre soin de moi, parce que je vais me demander quelque chose d'assez extraordinaire, encore une fois en termes d'intensité psychique et physique, et comment je vais prendre soin de moi pour tenir ce long marathon de la mission.
Mmh. Est-ce que vous avez des trucs à partager sur ce qui vous fait du bien, ce que vous mettez en place justement pour tenir au long cours sur la mission ? André.
Oui, alors je souris parce que j'ai une idée qui me vient à l'esprit. C'est le jour où mon mari m'a annoncé la dernière mission là, qu'il a faite. Le jour même, j'ai prévu des vacances avec les enfants, louer un mobil-home dans un camping au printemps, à la mer. Voilà. c'est ce que j'ai fait dans l'heure où j'ai appris le départ en mission. Ouais. Ça me permettait de me projeter dans du positif. Avec mes enfants, parce que là, ils commencent à grandir et je m'aperçois que le temps seul, ça demande aussi beaucoup d'énergie pour le mettre en place. Et à un moment, il est bon aussi de considérer l'enfant comme un ami, faire ami-ami, et de prévoir des choses avec eux aussi, en se disant, bon, on va essayer d'être doux les uns avec les autres, du passé, du bon temps ensemble. Et même en regardant une corbeille de linge sale se gonfler, et en se disant, on choisit ses combats. Voilà, pendant une semaine, la priorité, ça sera aller se balader sur la plage, passer de bons moments avec les enfants et les gens qu'on aime et qui sont là. Et tant pis pour le reste, on verra au retour. Mm-hmm. Ça, il faut s'autoriser, je pense, ces moments-là. Et ce qu'on arrive plus à faire, j'allais dire, avec l'âge, peut-être.
Ah.
Je pense que j'étais plus perfectionniste jeune. J'ai lâché.
Aude.
Moi aussi, c'est les moments de qualité qui m'aident à tenir.
Ouais.
Une soirée chez des amis, une soirée entre filles, un cours de sport ou même un moment de qualité avec mes enfants, une soirée jeu où on se fait un petit apéro.
Ouais.
Voilà, tout ça, ça aide à tenir et ça fait des bons souvenirs aux enfants et à nous aussi.
Mmh. Qu'a-t-elle ?
Alors, je suis d'accord. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les femmes de militaires, elles bougent pas mal. Et donc quand vous venez d'avoir une mutation et que vous connaissez personne dans la ville, ça c'est quand même pas facile, et en général vos familles sont assez loin, donc voilà, c'est se recentrer, du coup faire venir la famille, aller dans la famille, et puis profiter des enfants. Par contre, moi, les enfants, je leur ai jamais caché, ils m'ont déjà vu pleurer et je leur ai dit, mais vous avez le droit vous aussi de pleurer, enfin voilà, moi je pleure et je suis triste et c'est normal que vous aussi vous pleuriez. Et ça, je me suis jamais, enfin avec les enfants on en a toujours parlé, je me suis jamais cachée de, enfin voilà, du manque de mon mari et puis du coup de eux, leur papa, ça c'est
oui. Puis après ils voient la joie au retour et donc ils comprennent la différence. Comment la foi peut-elle aider pour habiter la joie ou la solitude, soutenir dans le découragement ou l'angoisse, et puis aussi rester en communion avec celui qui est loin? Comment vous vivez ça, cette dimension spirituelle à distance?
Alors moi, c'était toujours par la prière. Ouais. Après aussi, lors des grandes fêtes comme Noël Ou, enfin, par exemple, je prends l'exemple de Noël, mon mari, donc encore grâce à Skype, montrait qu'il avait mis une petite crèche dans sa chambre. Et donc, nous, on montrait la crèche. Et du coup, on vivait ensemble. Enfin, c'est un moment important dans la foi catholique. Donc voilà, la prière et montrer que ben, papa aussi, il continue, il va à la messe aussi, il nous veut montrer leur petite chapelle avec des photos, etc. Donc les enfants, voilà, il y avait encore cette communion, même s'ils étaient à distance, la foi était quand même vécue en famille à distance.
Mmh. Aude ?
Nous aussi, la prière quotidienne avec les enfants. Et puis après, les dimanches où on savait que mon mari n'avait pas la messe, je disais aux enfants et on communiait tous à son intention pour vraiment le porter dans nos prières.
Mmh. Audrey ?
Oui, c'est un peu la même
chose. C'est la même chose aussi.
Exactement.
Ouais.
Alors nous, c'était par photo et mon mari avait emporté un petit Lego, une figurine de petit Sylvanian, les figurines de petite fille. Tous les dimanches, ils nous ont envoyé la photo du petit Lego du Sylvanian dans la petite chapelle du camp. Quand il avait la chance.
Oui, ça permet de marquer le temps aussi, marquer le dimanche et montrer que c'est un jour important dans la vie de famille, un jour un peu à part. Un petit peu dans la trame de ce que nous disions en première partie de cette émission, avant la mission, est-ce que pendant la mission, il faut tout se dire, Mathilde Thibergin, ou bien est-ce qu'il faut dire que c'est difficile à la maison? Est-ce qu'il faut dire que la mission est dangereuse? Comment on peut être vrai tout aussi en préservant l'équilibre de l'autre, Mathilde Thibergin?
Oui, ça c'est vraiment un peu une question qui est compliquée parce qu'on marche un petit peu sur un fil, parce que je ne crois pas qu'il faille tout se dire. Je pense que ce n'est pas possible et que du coup, sinon, on risque beaucoup de frustration, on risque aussi de blesser l'autre, de se blesser aussi. Je crois qu'il faut essayer de marcher un peu sur cette ligne de crête entre dire suffisamment pour que chacun puisse rejoindre l'autre dans sa bulle et que le militaire, quand il rentre, il découvre pas, en fait, entre guillemets, tout ce qui s'est passé et que potentiellement on lui aurait caché, parce que je pense que dans ces cas-là, le retour est très compliqué. Donc je pense qu'il faut pouvoir lui dire suffisamment et en même temps, il y a des choses qu'il va falloir forcément un petit peu filtrer, parce que pour le militaire, il va pas pouvoir tout recevoir à l'état brut, en étant très très loin, avec peu de possibilités d'agir. Ça peut être, ça peut vraiment faire naître un sentiment d'impuissance qui est très toxique pour le militaire. Donc c'est vraiment marcher un peu sur cette ligne de crête. Mais j'aime souvent à dire au cabinet que l'idée, c'est pas tant de dire tout ce qu'on a fait dans la journée, c'est impossible et pas très porteur, mais plutôt s'autoriser à dire comment on vit les choses. Ça me semble important. C'est important quand même de dire, peut-être la semaine là, qui est passée, je me suis trouvée plus fatiguée, peut-être un peu plus nerveuse ou plus déprimée. Pareil pour le militaire, ou au contraire, pouvoir se dire, voilà, ça reste difficile, mais aujourd'hui, il y a eu des petits fioretti, il y a eu des belles choses et je vais pouvoir t'en dire quelque chose aussi. C'est aussi une façon de prendre soin de l'autre, hein, l'un l'autre, de pouvoir un peu doser ce qu'on se dit.
Mmh. Et alors, il peut y avoir pendant la mission des nouvelles inquiétantes qui parviennent, et notamment par les médias. Comment vous les avez accueillies, ce genre de nouvelles, et tout en vous protégeant, puisque on a quand même des informations qui nous parviennent. Aude ?
Mon mari m'a toujours dit, ce qui passe aux infos, enfin, de toute façon, s'il m'arrive quelque chose, tu seras au courant avant les médias, avant que ça passe à la télé. Donc voilà, ne regarde pas les infos. Donc je ne regarde pas les infos et j'attends des nouvelles de mon mari.
Oui, mais après il peut y avoir des infos qui passent par l'école et puis les enfants qui reviennent en vous disant on a entendu que notamment.
Ouais. Donc voilà, moi c'est vrai que quand surtout enfin voilà la vallée d'Ouzbine en Afghanistan où là j'ai eu la chance qu'ils m'appellent en disant tu vas voir il y a pas mal de décès. Mais parce que c'était un peu le chaos chez eux, je suis pas dedans, t'inquiète pas. Et c'est vrai que j'avais rien dit aux enfants. J'ai pas voulu leur dire tout ça. J'ai gardé tout pour moi. Et ça, c'était pendant les vacances. Je me souviens très bien. Et en fait, c'est à l'école que ça a parlé. Et les enfants le sont rentrés le soir en disant « Oui, papa, est-ce que papa est mort ?» Il paraît qu'il y a eu plein de morts en Afghanistan. Et voilà. Donc là, je me suis dit « Bon, il faut parler. Il faut parler un minimum et leur dire que oui, ben, effectivement, papa, et ben, c'est son métier et qu'il y a des risques. Mais... »
Mais en tout cas,
cette mission m'a fait grandir parce qu'effectivement, l'émission précédente, je n'avais pas du tout pris conscience du danger. Et
grandir dans quel sens ?
Dans le sens où, dans la communication avec les enfants, savoir comment les prendre, comment leur parler.
Il y a un autre écueil peut-être qui peut arriver pendant la mission, c'est cette forme de décalage. Le militaire vit une expérience intense alors que le conjoint qui est resté à la maison est pris par la routine du quotidien. Mathilde Thibergin, qu'est-ce que vous diriez pour pouvoir gérer cette différence ? Et je vois Audrey sourire, peut-être qu'elle réagira après vous.
Oui, je pense que ce décalage, il est inévitable. Hein. Évidemment, chacun a vécu sa mission, même le conjoint qui reste, il ne vit pas l'ordinaire, puisque l'ordinaire privé de l'autre, c'est quand même un peu de l'extraordinaire. Donc forcément, il y a un décalage au retour, et ça, je pense qu'il faut l'accepter et pouvoir progressivement se raconter, en fait, sa mission, chacun pour pouvoir se rejoindre un peu, mais accepter que ça prenne du temps et que ce soit entre guillemets inévitable encore une fois.
Mm-hmm. Vous voulez réagir,
oui,
Audrey ?
Je crois que c'est vraiment ça. On a un quotidien qui est intense, mais qui n'est pas objectivement palpitant. Donc même lorsque notre mari nous appelle, alors comment s'est passée ta semaine ? Bien. On va pas tout épeler, la liste des menus, les sorties d'école,
rien d'extraordinaire.
Ouais. C'est pour ça que il est important aussi de choisir dans les modes de communication celui qui convient. S'appeler tous les jours, parfois on n'a pas la possibilité. Mmh. Et quand c'est possible, on a vraiment pas grand chose à se dire parce que justement on choisit de ne pas tout se dire non plus.
Et puis ça peut être frustrant aussi.
Exactement.
Que l'un ou l'autre ne soit pas complètement disponible. Oui, visiblement, tout le monde autour de la table. D'accord.
Skype, j'en ai une horreur.
Ouais. C'est dur.
Ouais, je ne peux plus supporter Skype. Pour moi, c'était vraiment... Je le faisais parce que mon mari avait besoin de voir les enfants. Mm. Et les enfants aussi. Mais moi, non, c'était vraiment pas... La lettre avait beaucoup plus de sens.
Aude ?
Nous, on se limite à un appel maximum par semaine. Et pour pas tourner en rond, on privilégie plutôt les mails et les lettres. Mmh. Et après, le plus gros des missions, il a fait quand les enfants étaient petits. Donc Skype, en fait, les enfants ne comprenaient pas. Mmh. Que papa soit tout plat et qu'il n'ait pas de nez, c'est pas compréhensible. Donc du coup, on a arrêté. Et voilà, une petite carte de temps en temps. Et après, avant que le papa parte, on faisait une photo avec papa en uniforme. Et voilà, et chaque enfant, il y en avait un qui dormait avec, l'autre qui l'avait mis sur son bureau. L'autre dans son sac et il se baladait dans toute la maison avec. Voilà, chacun
son rituel. Ouais. Et quand la fin de la mission approche, comment faut-il préparer le retour, Mathilde Thibergin ?
Bah là aussi, en fait, il faut déjà avoir en tête que ça se prépare, que c'est pas entre guillemets si facile ou si extraordinaire comme souvent le monde extérieur le projette. En fait, ça se prépare en se parlant aussi. Là aussi, avec cette éternelle question de quoi on aurait besoin pour se retrouver le mieux possible. Et là, je trouve que les conditions pratiques sont importantes. Où est-ce qu'on se rejoint, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir des temps de couple, mais aussi d'avoir des temps de qualité avec chaque enfant, tous en famille. Et ça, je crois que voilà, chaque famille aura sa réponse. Et puis peut-être aussi de se dire, bah voilà, on sait qu'un retour, ça prend du temps. Il faut du temps pour se retrouver, il faut du temps pour se réapprivoiser quelque part. On sera forcément un peu différent chacun. On n'est jamais le même qu'avant la mission, et donc accepter que cette réorganisation, là aussi, ça prenne du temps et que ça demande de la patience, ça demande aussi de s'en parler.
Audrey Cataléaud, là, qui est en plateau sur cette question du retour. Est-ce que vous avez senti des décalages, puisque finalement, c'est la fête, mais à côté de ça, chacun arrive fatigué et le militaire rentre épuisé de sa mission et peut être aussi décalé, Aude ?
Exactement. Il est décalé et nous, on a tenu pendant des mois sur certaines règles. Et du coup, il faut prendre sur soi pour laisser la place à son conjoint. Et ça va prendre un peu de temps. Et lui, il va être plus flex sur certaines choses qu'on a verrouillées pendant 4 mois ou plus. Et donc, c'est un peu frustrant parfois parce qu'on se dit, moi, j'ai été exigeante sur tel et tel point. Et lui, en une journée ou en une semaine...
Il a tout lâché.
Voilà. Donc, il faut prendre vraiment sur soi et être tolérant vis-à-vis de son conjoint. Et qui, en plus, pendant des mois, n'a pas eu tout le bruit des enfants. Donc, c'est difficile pour lui. Il est plus fatigué. Donc, voilà, c'est vraiment... faut prendre le temps et que tout le monde prenne sur soi.
On entend cette question du temps, Catel, vous vouliez ajouter quelque chose sur
non,
le retour?
Non, moi, je dis, c'est vrai que souvent, moi, pour nous, les 15 premiers jours sont super.
Petit
et
nuage.
Après, alors moi, justement, j'ai peut-être plus tendance à lâcher sur certaines choses, et lui est un peu plus strict, et j'avais l'impression d'avoir fait n'importe quoi, ce sentiment d'avoir fait n'importe quoi pendant toute son absence, alors... parce que vous relâchez et les nerfs lâchent un petit peu. Et vous... Donc, du coup, il y a peut-être une incompréhension entre le mari et l'épouse. Mais après, ça revient.
Voilà.
Ça se revient assez vite quand même.
Il faut en tout cas avoir de la patience et puis laisser le temps réajuster finalement l'équilibre. Ouais. Un dernier mot pour terminer sur la notion de la fête. Est-ce que comment la foi peut être partie prenante de ces retrouvailles. Est-ce que vous avez un petit rituel pour, chanter le retour du papa, chanter un alléluia ou je ne sais quoi?
Non, pas forcément. C'est vraiment la messe qui suit le retour, qui est une action de grâce absolue.
Ouais. Enfin, c'est bon d'être tous ensemble.
Ensemble, ouais. Réunis, après avoir prié les uns pour les autres très loin, au même endroit. Là, c'est vrai que c'est un sentiment de plénitude. On se retrouve en cocon à nouveau.
Oui, tout à fait. C'est voilà, la prière du soir où on est tous ensemble et après, effectivement, la messe où on n'est plus seul à gérer les enfants qui courent partout. Yes.
C'est bien d'être deux. Oui.
Ça fait du bien.
Merci beaucoup. Merci à vous trois, Catel Deprec, Audrey Bella et Aude Gardet. Merci Mathilde Hébergien. Je rappelle le titre de votre livre, Famille de militaires, le défi de la mission, c'est aux éditions MAM. Merci beaucoup.
Merci.
Nous l'avons compris, la mission du militaire impacte sa famille. Les invités de Vivante Église en ont témoigné. Mais hors antenne, elles ont confié que, pour rien au monde, elles ne changeraient de vie. Cette alternance d'absence et de présence, malgré les difficultés, leur permet de retomber amoureuses de leur mari.